Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de l'info. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Émission très largement consacrée ce soir encore au risque terroriste contre la France. La menace continue de planer au-dessus du pays, a dit aujourd'hui Gabriel Attal. Et cette menace a un nom, a dit le Premier ministre, la menace islamiste. Et il l'a répété plusieurs fois, Gabriel Attal.
La menace est connue, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est un islam dévoyé qui attaque nos valeurs et qui exècre notre liberté, qui veut détruire nos modes de vie. Autour du président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, nous ne laisserons jamais une minute de répit à ceux qui veulent s'en prendre à la France, s'en prendre aux Français. Notre main ne tremblera jamais face au terrorisme, jamais face à l'islamisme.
Parmi les punchlines de la journée, on retiendra le coup de gueule du maire d'Orléans sur CNews. Depuis des mois, en cachette, on exfiltre vers sa ville des migrants depuis Paris. En vue des JO, plus de 500 migrants seraient arrivés à Orléans. Motus et bouche cousue de la part de l'État, le maire lui-même a dû mener l'enquête.
Depuis mai 23, nous avons un bus toutes les 3 semaines, à peu près un quart, qui part de Paris et qui emmène entre 30 et 50 migrants sans domicile fixe sur Orléans. Donc l'État loue des nuitées d'hôtel et ensuite je ne sais plus ce que ces personnes deviennent. D'abord, j'avais depuis des mois quelques rumeurs. J'ai posé un certain nombre de questions aux services de l'État qui n'ont eu que des réponses évasives. Et puis enfin, nous avons mené entre guillemets notre propre enquête et l'on arrive à ce poteau rose.
Ce poteau rose, a dit le maire d'Orléans. Sans doute que tout à l'heure, on parlera du déficit de la France abyssal. Qui va payer? Ben nous. Qui fera des économies? Qui va devoir en faire? Nous. Et qui va devoir sans doute s'asseoir sur ses retraites ou sur sa retraite? Eh bien, nous aussi, d'ici quelques années. C'est ce qu'affirme Marc Fiorentino, invité ce matin de CNews.
Le coût des retraites est un des postes de dépenses principales du gouvernement. Donc ce qu'on va faire, il ne va pas y avoir une révolution du jour au lendemain, c'est qu'on va grignoter année après année à la fois le montant des retraites que pourront espérer avoir les gens qui ont 25, 30 ou 40 ans. Moi je dis en dessous de 40 ou 45 ans, il n'y aura plus de retraite, il y aura une indemnité de retraite. D'accord.
Voilà, une indemnité de retraite. Donc, son conseil, c'est de mettre de l'argent de côté dès maintenant. Et alors, pour terminer, parmi les punchlines, et celle-là, elle est savoureuse, hein, elle concerne les JO, les transports pendant les JO. On s'en doute déjà, ça va pas très très bien marcher, a priori, dans les métros. Parfois, des stations seront fermées. Mais la responsable des transports en Ile-de-France est Valérie Pécresse. Et Valérie Pécresse a la solution.
Il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. On est au mois d'août, on espère qu'on profitera aussi pour voir le bois de Boulogne et profiter des berges de la Seine. Je rappelle que la première tranche d'âge, un tiers des visiteurs des Jeux, auront entre 25 et 35 ans. On espère qu'entre 25 et 35 ans, on peut de temps en temps prolonger le trajet à pied.
Général Bertrand Cavalier, bonsoir. Vous êtes prêt à marcher pendant les JO?
Les militaires et la marche.
Bien sûr, évidemment.
Naturel.
Bon, je suis ravi que vous soyez là. Bonsoir Maxime Thiebaud.
Bonsoir.
Formidable. Quelle défense incroyable, Valérie Pécresse. Ça va foirer, il va y avoir des soucis, mais comme ce sont des jeunes qui vont venir, on pourra marcher. C'est génial, Johan.
C'est formidable, c'est pour ça que je vais partir.
Sous la canicule, en plus.
il fera chaud, il fera bon. Bon, on va largement parler de terrorisme tout à l'heure, mais je voulais qu'on commence par écouter Bruno Le Maire, qui était, c'était sa journée aujourd'hui. Il était à l'Assemblée pour parler de la dette, mais aussi au Sénat pour une audition en commission d'enquête très intéressante. Il était interrogé sur le poids de la drogue dans l'économie de la France. Il a donné un bilan chiffré très précis. 3,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est ce que représente aujourd'hui la drogue en France. 200 000 employés. Et la dernière ligne, bon, ça se retrouve pas dans toutes les entreprises, évidemment, c'est 315 homicides liés au trafic de drogue. Bruno Le Maire a également parlé de cartels. France qui se cartélise, qui dispose les cartels de sous-marins. Et pour lui, il faudrait appliquer une jurisprudence spécifique comme pour les affaires de terrorisme.
Les trafiquants de drogue ont des moyens comparables à ceux des États. C'est une des grandes nouveautés. Ils ont un arsenal technologique, des sous-marins grâce auxquels ils peuvent transporter de la drogue sans être repérés, des balises, des caméras qu'ils positionnent dans les conteneurs de stupéfiants pour mieux les tracer. Nous commençons notamment à voir s'implanter des trafiquants étrangers venus de cartels sud-américains sur le sol national. Il faut donc agir vite, car bientôt il sera trop tard. Pour moi, il faut appliquer au narcotrafic la même jurisprudence qu'au terrorisme.
Bon, peut-être qu'on va commencer par décoder, Général Cavalier, ce qu'a dit Bruno Le Maire sur les moyens dont disposent aujourd'hui les narcos. On a compris que c'était, on n'était pas encore dans un narco-État, mais il y avait des narcotrafiquants qui avaient des moyens considérables. Quand on parle de sous-marins, de caméras embarquées dans des containers, c'est qu'il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour arriver à faire du business.
Bah, c'est enfin le discours de vérité. La procureure de Paris, déjà l'année dernière, avait alerté un article dans Le Monde qui avait fait état de la puissance considérable des narcotrafiquants, avec même des menaces pesant sur des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas. Maintenant, on est face à cette réalité. Il est vrai que pour lutter, ce qui est une véritable menace pour notre pays et pour notre jeunesse, au-delà des aspects, je dirais, financiers, eh bien, il y a d'autres moyens qui doivent être utilisés. Il faut qu'on change totalement en termes de paradigme si on veut vaincre.
Quels moyens, précisément? Soyons très clairs.
Alors déjà, le cadre juridique doit évoluer. Les enquêtes sont beaucoup trop complexes. Mm-hmm. On doit être beaucoup plus rapide sur la saisie des avoirs criminels. Et puis, il faut le dire, il faut peut-être envisager l'utilisation d'autres moyens s'agissant des centres de gravité, hein, des narcotrafiquants.
Changer de justice.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire le général Cavalier. Effectivement, c'est une question de moyens. Vous savez, dans les années 70-80, quand l'Italie s'est attaquée à la Cosa Nostra et à la mafia qui gangrenait avec les États-Unis, en réalité, on s'est attaqué aux avoirs financiers. On s'est attaqué au fait qu'ils pouvaient blanchir facilement.
Aujourd'hui, là aussi, il parle de blanchiment. Hein, et de, on n'a pas mis l'intégralité de ce que dit Bruno Le Maire, mais il dit qu'il y a des machines à laver de l'argent de la drogue qu'on pourrait...
Est-ce qu'effectivement, on met tous les moyens en termes de recrutement, en termes de fonctionnaires, en termes de capacitaires, parce qu'on sait que les besoins sont énormes. Alors on a créé l'OFAST, on a créé des organismes nationaux qui sont là pour lutter, mais ces policiers sont un petit peu désemparés parce que malheureusement, ils ont insuffisamment de moyens.
Les magistrats, je pense qu'il faut leur en donner davantage. Tout le monde s'en souvient, la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, Johan, on dit, mais la bataille est déjà perdue. Et quand on entend ça, quand on entend Bruno Le Maire dire les narcos ont les moyens d'État et ils disposent de... Quand vous avez un sous-marin, c'est des moyens incroyables. Vous dites, ça va être compliqué. On part déjà avec beaucoup de retard.
Oui, c'est vrai que les magistrats ont estimé que la bataille contre la drogue était d'ores et déjà perdue. Ça a d'ailleurs valu une énorme colère du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti,
qui n'était
pas d'accord avec cela parce qu'il est venu à Marseille. Et effectivement, mais Bruno Le Maire, ce qu'il dit est quand même un discours un peu inédit. On n'a jamais entendu une parole aussi forte de la part d'un ministre. Mais qui dit surtout, il faut traiter les trafiquants de drogue comme on traite les terroristes, donc avec une juridiction spéciale et avec des peines de la même ampleur. C'est-à-dire que si on se livre à du trafic de stupéfiants à une échelle importante, eh bien, on risque la prison à vie et on exécute véritablement sa peine. Seulement, aujourd'hui, prenons un exemple qui montre bien que l'État ne fait pas tout ce qu'il peut pour lutter contre ces trafics. Parce que quand vous avez des dealers, des responsables, des chefs de réseau qui vont en prison, ils continuent à gérer leur business parce qu'ils ont tous des téléphones portables dans les prisons, qu'ils continuent à communiquer, etc. Donc on voit bien quand même qu'il y a des failles importantes.
Donc il faut un parquet.
Je crois qu'il faut raisonner de façon beaucoup plus globale. L'Europe, les frontières doivent être... Tout le monde maintenant en convient. Il faut que nous puissions contrôler les frontières qui ne le sont pas actuellement. Donc déjà, si vous ne contrôlez pas les flux, comment voulez-vous protéger les territoires?
On sait que ça passe par les ports.
On a des moyens techniques. On veut faire intervenir à l'est de l'Europe. On a quand même des services spéciaux. On a quand même des moyens technologiques très avancés. On avance sur le cyber. On est capable de savoir identifier quels sont les centres de gravité du narcotrafic. Ouais. Et je terminerai que... Bon, il faut donc aller les chercher là où ils sont,
Mais il faut également prendre en compte tout ce maillage sur le territoire, sous des fausses épiceries, sur des faux commerces,
ça, c'est vrai.
Au cœur des territoires.
Sans compter la corruption qui est en train de s'installer. Et ça a été rapporté notamment de plus en plus dans le port du Havre, où des dockers sont corrompus pour laisser passer des containers qui contiennent de la drogue. Alors ils le font parfois tout à fait volontairement par appât du gain, mais ils sont parfois contraints de le faire par les trafiquants eux-mêmes, qui les menacent de mort, etc.
Sur la justice, qu'est-ce qui existe en matière de terrorisme qui pourrait s'appliquer aux narcos?
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils. Moi, c'est vraiment une question de moyens. Quand vous parlez avec un juge d'instruction, il est débordé de boulot. C'est ça la vraie difficulté. Il faut rajouter en fait de la matière humaine. Il faut de la matière technologique pour pouvoir déceler effectivement les besoins et déceler où se situent réellement les trafics. Mais il faut aussi de la matière humaine tout simplement. Puis je pense qu'il faut détacher aussi la géopolitique du narcotrafic. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a permis à certains États de développer aussi du stup pour des raisons purement de géopolitique et de diplomatie. L'histoire du narcotrafic est quand même intrinsèquement lié aussi à des questions de géopolitique.
Et puis il faut revenir à des mesures effectives d'interdiction du territoire français à ceux qui ont été condamnés. Parce que la part d'étrangers dans le trafic, elle est très élevée.
Mais est-ce qu'il faut une cour spéciale?
Mais en fait, moi, j'en ai un peu ras-le-bol de la législation dans tous les sens. Si vous voulez, en France, le problème, c'est que quand on veut pas régler un problème, on fait une nouvelle loi. Bon, on se rend compte qu'il y a quand même des narco-colonies qui se sont installées. Hein. Vous allez à Marseille, vous allez dans certains quartiers du nord de Paris, vous avez des systèmes coloniaux qui sont complètement installés avec leur système.
Le terme narco-colonie, sans doute plus juste que narco-ville ou.
Oui, moi, je pense que c'est effectivement des colonies. Parce que quel est le symptôme d'une colonie? C'est un système étatique, en fait, avec ses règles, ses chefs, son économie, son système social. Vous avez des cités en France qui ne peuvent vivre que sur le stup.
Il y a aussi le problème de la demande.
Bon. Et effectivement, oui.
L'argent de la drogue, et ça aussi, Bruno Le Maire l'a répété, sert aussi à financer le terrorisme. Gérald Darmanin l'avait dit hier soir. Vous allez écouter Jean-François Ricard, c'est le procureur du parquet national antiterroriste. Il y a quelques jours, il a fait un point précis lors d'un entretien qu'il a accordé à l'agence France Presse. Il a fait un bilan. Pour être franc, c'est un procureur dont la parole est rare, plus que préoccupé, vous allez l'entendre. Il y a une grande inquiétude dans les propos de Jean-François Ricard et il l'explique chiffre à l'appui.
Entre le 1er septembre 2019 et aujourd'hui, nous avons jugé 81 dossiers de terrorisme djihadiste devant la cour d'assises spécialement composée. 8 fois plus en un peu plus de 4 ans que pendant les 25 années qui ont précédé. Le chiffre est tout à fait éloquent. Ce n'est pas une augmentation, c'est un changement complet d'échelle. On considère qu'à 18 reprises, au cours de ces dernières années, nous avons pu déjouer des attentats. Je vise là des projets qui n'étaient pas des projets plus ou moins en l'air, mais des projets avec des objectifs définis par les individus qui participaient à ces associations malfaiteurs.
Voilà, donc sur les chiffres, ils sont intéressants également que donne Jean-François Ricard. Encore une fois, explosion des... Alors c'est là que c'est intéressant d'avoir une cour spécifique. Pour le terrorisme, ça se justifie. Vous disiez tout à l'heure, je contre pour les histoires de narcos. Mais là, ça se justifie totalement.
Oui,
depuis quelques années, on a un problème de terrorisme. Il faut juger rapidement les auteurs et on a l'outil pour.
Il y a une différence fondamentale aussi avec le stup, c'est que le terrorisme demande aussi une maîtrise des raisons du terrorisme. Et le terrorisme religieux, et notamment islamiste, nécessite de la part des juges de vraiment maîtriser les tenants, les aboutissants, les systèmes de réseau, etc. Et c'est vrai que quand vous avez parfois l'occasion de parler avec un juge d'instruction spécialiste dans les questions d'antiterrorisme, Vous voyez qu'il a une maîtrise et une connaissance de tout cela qui est importante et donc il est obligé de se spécialiser dans ce domaine-là. Donc effectivement, c'est quelque chose de très intéressant. Mais c'est pareil pour les forces de l'ordre et je tiens à les saluer ce soir parce que quand on a une attaque terroriste en France, ça on sait en parler, mais on oublie toutes ces attaques terroristes qui sont déjouées parce que nous avons la Direction générale du renseignement intérieur, des services intérieurs, la DGSI, qui fait un travail colossal et qui parvient à trouver des attaques potentielles.
Alors, deuxième extrait extrêmement intéressant, ça concerne les lieux de la radicalisation. La préoccupation concerne les prisons. Vous allez l'entendre.
Les détenus radicalisés. et les détenus terroristes et les sortants de prison. Je ne vous le cache pas, c'est une de mes inquiétudes principales. Et là encore, pourquoi ? C'est pas nouveau. Mais qu'est-ce qui est nouveau ? Ben, c'est les chiffres. C'est toujours parce qu'on est passé de quelques unités, de quelques dizaines, à une gestion de masse.
Gestion de masse, c'est très intéressant, je vous donne juste un chiffre. Environ 60% des 486 détenus condamnés pour terrorisme, qui sont sortis de détention depuis 2018, sont désengagés. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'éléments prouvant qu'ils sont en rupture avec l'idéologie. Moi, j'aimerais bien savoir qui mesure le désengagement, comment ça se fait. Et je pense que la prison, qui est un lieu de radicalisation, on en sort, on ne peut pas faire autrement qu'en sortir une fois que vous avez fait votre peine. On a vu que vous étiez radicalisé, vous avez terminé votre peine, vous sortez, vous n'êtes pas forcément accompagné.
Oui. Je crois que c'est pas nouveau que maintenant les établissements pénitentiaires sont des lieux de radicalisation, mais je crois qu'on n'a pas une vision globale des choses. Là, il y a un djihadisme d'atmosphère aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dissocier. Ça, c'est le sommet de l'iceberg. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce que disait notamment le Premier ministre britannique quand il dit que nos démocraties sont prises pour cible. Vous avez aujourd'hui des mouvances de plus en plus importantes. Malek Bouti parle d'un effet de masse. Boualem Sansa, lui également, rappelle le danger, qui sont là pour contester notre mode de vie, qui se réclament d'une législation qui, elle, relève d'un ordre divin, etc. Les pressions au quotidien contre les professeurs. C'est quoi ? C'est du djihadisme ? C'est du terrorisme également ? Alors c'est une forme de terrorisme global. Et donc, pour ce qui est de... Là, on est en train de s'intéresser au problème des gens qui sont allés en prison. De toute façon, une partie d'entre eux, la plus grande partie, ne changeront pas pour autant. Ça, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant de ce mouvement d'ampleur qui est en train de fragiliser notre société, qui risque de la décomposer ? C'est ça le vrai sujet.
Oui, deux choses. D'abord, le chiffre que vous donnez est parfaitement inquiétant parce que vous dites que 60% des détenus condamnés pour terrorisme islamiste sont déradicalisés quand ils sortent de prison. Ça veut donc dire que 40%...
Je rappelle le chiffre que nous donne Sandra Buisson ce soir. 486 détenus condamnés pour terrorisme sont sortis de détention depuis l'été 2018. Ils sont considérés à 60%. Comme désengagés.
Voilà, donc ça signifie.
C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'éléments qui prouvent qu'ils sont en rupture avec l'idéologie.
D'accord, formidable, mais ça signifie donc que 40% ne sont pas désengagés et donc que potentiellement ils représentent toujours une menace importante, qu'ils sont toujours radicalisés. Si 40% des terroristes qui sortent de prison sont toujours radicalisés, permettez-moi de penser quand même que ça représente une menace majeure. Je vous rappelle ce chiffre, 198 personnes condamnées pour terrorisme islamiste vont sortir de prison d'ici 2027. Donc, ça fait quand même près de 200 personnes.
Il y a les autres chiffres qui ont été donnés par
de prison.
Qui ont été donnés par Gérald Darmanin hier. Je rappelle simplement, Gérald, une tentative d'attentat tous les deux mois, deux attentats déjoués depuis le début de l'année, et une des huit dernières tentatives d'attentat commanditées par l'État islamique.
Et quand on parle de déradicalisation, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que ces individus reconnaissent la primauté des lois françaises, des valeurs laïques ? Là, je peux vous dire que. On ne dit pas véritablement les choses. Parce que la question centrale, c'est à quoi adhère-t-on ? Quel est le type de société que l'on veut privilégier ? Qu'est-ce qui prive aujourd'hui notre pays ? Je doute que ces gens qui sortent aient fait leur conversion aux valeurs de la République.
Je veux dire, ça se mesure comment, en réalité ? Qu'est-ce qui est crédible dans la mesure ? Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour regarder la déradicalisation.
C'est difficile d'aller sonder les reins et les cœurs.
Pour des spécialistes de la taquia, franchement, c'est très compliqué.
Non, mais c'est difficile d'aller sonder les reins et les cœurs. Quand vous êtes intimement convaincu de quelque chose et du modèle de société, comme vous le disiez, mon général, vous ne changez pas en prison, en plus. Et vous ne changez pas de logique. C'est-à-dire que la radicalisation, c'est une échelle aussi. Entre le passage à l'acte, c'est-à-dire l'idée d'aller tuer quelqu'un et avoir l'intime conviction que la femme est inférieure à l'homme, que l'homosexuel doit être tué et que la dignité de la personne humaine, elle n'est pas du tout la même que celle qu'on défend dans les sociétés occidentales, il y a quand même quelque chose qui se présente. Et moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est qu'en réalité, on a créé un vide civilisationnel depuis 40 ans parce qu'on a considéré qu'avec la fin de l'histoire et la chute du mur de Berlin, en suivant, il n'y avait plus lieu de transmettre des valeurs, de transmettre des savoirs. Et ce vide, il a été comblé. Il a été comblé notamment notamment par le radicalisme islamiste qui a pu rentrer facilement en Europe et en France parce que on a laissé les frontières ouvertes, qu'on a considéré que le monde il était beau, que le monde il était gentil et que tout le monde pouvait venir sur notre territoire.
Et qui est maintenant sur les réseaux sociaux et qui embrigade les jeunes de cette manière-là.
Et en plus, avec des systèmes de réseaux sociaux où on met à la vue des jeunes ce qu'ils recherchent avec des logarithmes qui permettent de voir des images affreuses. Donc, malheureusement, si on ne va pas sur un combat polymorphe, eh ben, je ne suis pas certain qu'on parvienne à s'en sortir.
Il n'y a jamais eu autant d'attentats déjoués. C'est ce qu'a dit hier Gérald Darmanin. Et on a les JO qui arrivent. Et on a les JO. On les fait ou on ne les fait pas, ces JO. Alain Bauer, spécialiste de ces questions, a dit une chose ce matin. Il ne faut pas passer au plan B ou C. Il faut aller directement au plan Z.
Le risque est immense dans un espace non terminé. Vous savez, la sécurité, c'est périphérie, périmétrie, compartimentale. Aucun de ces trois dispositifs ne fonctionne sur un espace ouvert comme la Seine. Bah, le président de la République, après avoir expliqué qu'avec un seul plan, le plan, enfin pas lui, on lui faisait parler, un plan a expliqué qu'il pouvait y avoir des plans B, C, D. Je pense qu'on arrive peu à peu au plan Z et ça sera probablement le meilleur.
Plan Z, le meilleur, c'est de pas le faire, si j'ai bien compris. Deux policiers ont réagi. Oui, on a peur du risque d'attentat. Nos familles aussi, mais c'est notre métier. Écoutez.
Le propre du policier, c'est toujours d'être inquiet parce qu'il faut toujours qu'on lève notre niveau. Et oui, bien sûr qu'on est inquiet. On a envie que ça se passe bien. Et en même temps, c'est aussi de notre devoir de montrer aux citoyens et aux gens qu'on est capable de manager.
Quoi. On a des policiers aussi qui sont tombés sous les coups des balles des islamistes radicaux. Et souvent, on est un peu seul nous, pour faire face à ces individus. On sait qu'en France, il y a des individus fichés S qu'on n'arrive pas à expulser, alors qu'on sait qu'ils peuvent être particulièrement dangereux.
C'est la responsabilité du gouvernement.
Et ça, franchement, c'est difficilement audible pour les policiers que nous sommes, parce qu'on a des familles, nous aussi. Hein. Et vous savez, nos épouses, nos enfants, ils disent « mais tu vas travailler, mais si tu tombes sur lui, qu'est-ce qui va se passer ?» Ben, ça va mal se passer. Donc là, on a relevé encore le niveau de Vigipirate. Bon, vous savez, nous, ça fait depuis 2015 qu'on est là-dedans, qu'on sait qu'il peut arriver un attentat tous les jours.
Le risque zéro n'existe pas, évidemment, mais c'est absolument effrayant. Les JO, on fait quoi là aujourd'hui ?
Le risque zéro, mais en fait, on construit le risque en France.
Vous voulez dire que là, en faisant ce qu'on va faire pour l'ouverture des JO, on construit du risque ?
Écoutez, si aujourd'hui la DGSI peut avoir une certaine photographie de la réalité terroriste en France, les flux massifs qui passent à travers nos frontières, les milliers d'Afghans qui arrivent, qui sont relâchés dans la nature. Pourtant, on sait ce qu'ils sont, sachant qu'on découvre aujourd'hui qu'il y a un... c'est curieux qu'on trouve qu'il y a l'État islamiste en Afghanistan, chez les Tadjiks, etc. Bon, ces gens-là, qu'en fait-on ? En fait, on est dans une situation qui est de plus en plus périlleuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas organiser cette cérémonie, mais alors, il faut mettre des moyens considérables, qui n'excluront pas d'ailleurs des actions périphériques. On peut à la limite sanctuariser. Maintenant, la question se pose au-delà des jeux. Les jeux, il y a plein de menaces maintenant qui vont peser sur les jeux. Il y aura le terrorisme, il y a une délinquance de masse, il y a plein de phénomènes. Et il est vrai que je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même regarder la réalité en face.
Rapidement.
Oui, je crois quand même effectivement que nous avons construit les conditions de notre propre malheur. En partie, en tout cas, avec une immigration incontrôlée qui a effectivement contribué à laisser rentrer des terroristes, avec le fait que les OQTF ne sont pas appliquées, avec le fait que nous n'avons pas suffisamment tôt contrôlé ce qui se passait sur les réseaux sociaux et que nous ne faisons pas suffisamment non plus aujourd'hui parce qu'une grande partie de cette jeunesse embrigadée l'est désormais sur les réseaux sociaux et plus tellement dans les mosquées en réalité. Donc tout cela, il est temps de le prendre en compte. Et un dernier mot quand même pour dire que évidemment, si nous devions annuler les Jeux Olympiques, c'est impensable, mais ne serait-ce que la cérémonie d'ouverture, ce serait quand même une victoire du terrorisme et ce serait reconnaître qu'ils ont un impact sur notre mode de vie. Donc c'est quand même quelque chose d'impensable.
Ce discours-là, je l'entends, mais j'ai entendu aujourd'hui Olivier Marleix dire exactement le contraire. Cet après-midi, il y a l'Assemblée, vous allez entendre, vous allez faire un commentaire là-dessus, il a dit c'est le gouvernement, il en fait trop. Il surjoue le terrorisme.
Je pense que le gouvernement fait des choses totalement incohérentes. On ne peut pas à la fois dire aux Français que la menace elle est au maximum, surjouer comme toujours cette gravité. Évidemment que la menace terroriste elle existe, la menace islamique elle est là. Je ne suis pas sûr qu'il faille en parler matin, midi et soir.
pour protéger les Français. Le gouvernement aime la communication anxiogène, vit de ces tensions qu'il crée en permanence dans le pays.
C'est surjoue le terrorisme.
Non, mais
le gouvernement surjoue le terrorisme.
C'est pas faux, vous savez, l'histoire de France, quand vous reprenez la guerre d'Algérie, par exemple, hein, vous avez eu beaucoup d'attaques terroristes sur le territoire national pendant la guerre d'Algérie, ça n'a pas empêché à la France d'adopter la constitution de la 5e République avec un préambule qui était très libéral et très ouvert sur les droits. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a aussi une notion et une nécessité de confiance et d'être positif et de se dire, mais les terroristes, ils ne gagneront pas parce qu'on est tellement amoureux de la liberté que même s'ils viennent nous embêter, de toute façon, on continuera de vivre librement. Je pense que c'est le message qu'il faut envoyer. Et il y a un deuxième message qu'il faut aussi envoyer, c'est qu'il faut faire confiance à l'État et aux préfectures, à la préfecture de police de Paris notamment, lorsqu'il s'agira de prendre des mesures de sécurité et autres. J'espère que notamment l'extrême gauche pensera aussi à se dire « je vais rester sur la réserve et ne pas aller attaquer en permanence devant les juridictions toutes les décisions qui vont être prises par l'État pour protéger les Français pendant les JO ».
Quand Marlex dit « surjoue le terrorisme », ça veut dire qu'il y a une arrière-pensée électorale
Écoutez, monsieur Olivier Marleix, il a fait partie d'un appareil politique qui a gouverné la France. Donc je l'incite à beaucoup d'humilité et de retenue.
Oui, clairement.
Parce que lui aussi, d'une certaine manière, instrumentalise. Bon, maintenant, je suis d'accord sur ce que vous disiez. Si maintenant, il faut passer à l'offensive, la première offensive, elle est d'ordre idéologique. Oui. Il ne faut plus rien céder, notamment au sein de l'éducation nationale. On est dans une situation maintenant, il faut choisir.
21h31, Adrien Spiteri, bonsoir. Le rappel des titres.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. À Baltimore, les opérations de sauvetage se poursuivent après l'effondrement d'un pont. Au moins 6 personnes tombées à l'eau sont toujours recherchées. Le pont Francis Scott Key a été percuté par un porte-conteneur tôt ce matin. Une perte momentanée de propulsion aurait conduit à la collision. Plus de 6 mois après la disparition de la jeune Lina, 3 personnes ont été placées en garde à vue aujourd'hui. Un couple a été convoqué chez les gendarmes. Un homme a lui été interpellé en début de matinée. Des incohérences ont été repérées dans leurs déclarations et leurs emplois du temps par les enquêteurs. Et puis le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris quitte ses fonctions. Le rectorat évoque des raisons de sécurité. Il avait été menacé de mort sur Internet après une altercation avec une élève il y a un mois. Le proviseur lui avait demandé d'enlever son voile.
Merci Adrien. Alors ça, cette histoire est très intéressante hein, parce que au final, qui a gagné? Qui a gagné? C'est le proviseur qui a demandé d'enlever à une jeune femme son voile, a été menacé de mort, il n'en peut plus.
C'est pour ça que quand le gouvernement dit « nous ne céderons rien, ils ne passeront pas, nous ne reculerons jamais d'un millimètre, d'un centimètre », eh bien c'est faux, parce que ce proviseur, il n'a pas été protégé, et parce que là, quelque part, eh bien ce sont les islamistes qui ont gagné.
Mais est-ce qu'il veut dire qu'on va être devant des questions centrales dans les prochaines années? Ceux qui ne veulent pas vivre à la française, ceux qui ne veulent pas reconnaître la primauté des lois, ceux qui n'adhèrent pas à ce que vous évoquiez tout à l'heure, il faudra qu'ils partent.
Parce que ce proviseur n'a fait que défaire la loi, précisément. Non, il n'a fait qu'appliquer la loi. Mais il est en danger pour cela. Il a démissionné pour avoir défendu la laïcité.
Nous ne serons jamais des souis ni des dhimmis. Donc il faut absolument...
Aujourd'hui, c'est lui qui a perdu la main. Et avec lui, c'est l'État, c'est la laïcité.
Ce sont les milliers de professeurs qui vivent dans la crainte aujourd'hui. Et l'histoire va vite.
Bien sûr,
l'histoire va vite.
Un réveil après une gueule de bois, on a toujours la migraine. La France a quand même fermé les yeux pendant 20 ans. Le rapport Aubin en 2004 était regardé de loin en disant « Ouh, c'est quand même un rapport très borderline hein. ». On se souvient des débats à l'époque qu'on lisait par voie de presse. Et là, la France, et notamment le paysage politique gouvernemental, s'est réveillé depuis 5-6 ans et se dit « Il y a des problèmes ». Mais il a encore un peu de mal parfois à aller jusqu'à une protection fonctionnelle assurée de ses agents.
Je rappelle qu'il y a eu des établissements en France qui ont été... Le système, la plateforme de partage des devoirs et des cours a été piratée avec des menaces à caractère terroriste. Et je voulais que vous réagissiez à ce que disait dans Midi News la présidente de SES École. Les mots sont très forts. Elle parle de certaines écoles qui seraient des territoires perdus. Écoutez.
Est-ce que le territoire de l'école est perdu? C'est une vraie question. Alors vous dites à juste titre, Sonia, on ne sait pas quelle est l'origine. Il n'empêche que le registre de la terreur, c'est sur l'islamisme radical, puisque c'est bien un message de cette nature-là qui a été transmis et pas un autre. Alors peut-être que l'origine n'est pas celle-ci. Bien sûr, il faut être vigilant. Mais il n'empêche que le registre de la terreur est sur celui-ci.
Mais bien sûr, bien sûr.
Et donc là, on se dit, est-ce qu'on est en train, au-delà d'avoir pris un certain nombre de territoires de la République, est-ce que l'école devient un territoire de la République qui peut être pris en otage, comme c'est actuellement le cas ?
prise d'otage des écoles, territoire perdu. Encore une fois, les mots sont forts.
Les mots sont forts, mais...
Et on a un exemple ce soir d'un proviseur
qui démissionne. Ce qui est, ce sont les faits qui s'imposent aujourd'hui. Oui. Mais ces faits existaient il y a déjà 40 ans. Quand vous aviez des intellectuels de gauche, je rappelle, qui dénonçaient, qui disaient, qui alertaient sur ce qui se passait, le radeau de Mahomet, Jean-Claude Barrot, bon, et jouaient également le combat de grandes figures comme Elisabeth Badinter, etc., qui ne cesse pas de dire qu'il y a un danger majeur aujourd'hui. Alors maintenant, comment va-t-on répondre à cela? Déjà, arrêter l'immigration. Et deuxièmement, il faut quand même ramener les gens au pacte social, au pacte des valeurs qui relèvent de notre identité. Ceux qui ne veulent pas l'accepter devront partir.
21h35, on marque une pause. Peut-être on parlera du service militaire. Ministre Le Cornu a un peu écarté la question tout à l'heure en disant que ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Mais on a un sondage intéressant à vous montrer. Vous restez avec nous. A tout de suite. Avant de revenir à nos affaires de terrorisme, je voulais qu'on revoie des images en direct en ce moment de Baltimore. Parce que cette image générale, elle est absolument fascinante. Hein, donc ce cargo qui est rentré dans ce pont. Alors visiblement, il y a une conférence de presse il y a quelques minutes, le bateau avait un problème électrique. Il y a encore 7 personnes qui sont recherchées. Enfin, vous avez vu ces images, c'est incompréhensible.
Oui, on a envie de dire « oups ».
Ouais, mais...
Non, mais c'est terrible.
Non, mais c'est une société moderne, c'est une société qui comporte des risques. Donc là... Quel commentaire, là, ça fait partie...
Celle-là, je vous teste, là. Je regarde si vous êtes fort en commentaire sur image.
Non, mais là, on...
je ne suis pas spécialiste des secours.
C'était pour savoir si vous étiez spécialiste
des cargos. Je dis simplement que vous avez une probabilité d'accident dans toute société.
Bien sûr. Bon,
non, mais voilà. Outre le caractère tragique, il y a eu des décès, je pense aussi aux assureurs. Pour le coup, ils doivent se dire qui est le responsable. C'est mon côté avocat, mais je me pense sur les assureurs, sont un peu... gêné ce soir.
Bon, Sébastien Le Cornu, le gouvernement aujourd'hui n'a pas utilisé encore le terme d'économie de guerre, mais pour la première fois, le ministre des Armées s'est dit prêt à réquisitionner des personnels, des stocks ou des outils de production. On va écouter.
Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement de faire, c'est-à-dire si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant, ou de faire jouer le droit de priorisation, c'est-à-dire quand vous avez soit une entreprise, soit des sous-traitants qui produisent à la fois des objets civils et des objets militaires, c'est de... par injonction de donner l'instruction à l'entreprise de faire passer la commande militaire avant la commande civile, d'imposer aussi des stocks minimaux.
Des stocks de quoi? Des outils de production de quoi? Pour fabriquer quoi?
On n'avait pratiquement plus d'industrie d'armement. Depuis 40 ans, 50 ans, elle s'est effondrée.
Enfin, on n'avait pas besoin, en réalité.
Non, mais il y a eu, bien entendu, il y a eu les dividendes de la paix de quelqu'un très inspiré, qui s'appelle Fabius. Mais aujourd'hui, on redécouvre l'histoire, on découvre que le monde est dangereux. Donc il faut une armée, il faut des armées qui soient équipées, il faut du stock, il faut durer. Il faut être présent sur tous les moyens nécessaires. Donc sur le principe, ça me paraît très, très justifié, sur le principe. Après, pour faire quoi? Là, c'est une autre discussion.
Ouais. Une question CNews qui a été posée ce matin, Sébastien Le Cornu, sur le service militaire. Dans ce contexte de guerre, à nos portes... Guerre, il y a l'Ukraine évidemment, mais il y a aussi le terrorisme, on va parler. Peut-être que le retour du service militaire, pour un tas de raisons, serait envisageable. Réponse du ministre ce matin.
Souvent, nos concitoyens, quand ils veulent le rétablissement du service militaire, c'est pas à des fins militaires, c'est à des fins sociales. En se disant, notre jeunesse serait mieux formée, les valeurs de camaraderie, l'ordre, la discipline, le sport qui est un des moyens justement de créer les conditions d'un vivre ensemble, la mixité sociale et le brassage que le service permettait de faire, même si je vous rappelle qu'il ne concernait que les messieurs, que c'était seulement la moitié de la population. Ça appelle peut-être plutôt une réforme de l'école que demander aux militaires de faire le travail des enseignants. Ça appelle peut-être aussi une prise en compte et une prise de conscience que les parents doivent aussi faire leur job de parents, sans forcément attendre de l'institution militaire qu'elle fasse aussi le job des parents.
Ça veut dire non. Hein.
Il n'est pas vague du tout, il est très clair.
Il est très clair. On va regarder le sondage. Nous aussi, on avait un sondage très clair. CSA de l'Institut CSA pour CNews Europe 1 et Paris Match. Êtes-vous pour ou contre le rétablissement du service militaire obligatoire? Oui, 65%. Maxime Thiébaud, qui est militaire de réserve.
Oui, alors je n'ai pas le droit de m'exprimer à ce titre, hein, mais moi je suis effectivement pour le rétablissement du service militaire obligatoire, parce que je trouve que c'est un moment magnifique, hein, pour le coup. Moi j'ai adoré le petit service que j'ai eu à connaître dans le cadre de la réserve. Après, la difficulté, je le dis sincèrement, c'est que je ne voudrais pas non plus qu'on arme des personnes qui intellectuellement ne pensent pas comme nous. Il y a aussi cette difficulté-là, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes, et on le sait, c'est le débat qu'on avait tout à l'heure sur le djihadisme, sur la taqiya et autres, qui ont des convictions qui sont complètement opposées aux nôtres. Alors si le service militaire permet de les rétablir dans des convictions qui sont celles des valeurs de la République française, tant mieux. Et le débat est ouvert sur le fait de savoir si ce sera pertinent ou pas. Mais attention aussi à ne pas malheureusement donner des moyens ou des connaissances à des personnes qui ne sont pas...
Mais on n'a pas le budget. Non, il y a déjà...
Ah bon, on n'a pas le budget.
C'est non, attendez. On est dans une situation financière qui ne permet aucunement de pouvoir reconstruire, de rétablir de façon cohérente, efficiente, le service militaire obligatoire. C'est pas possible.
Mais j'aurais préféré qu'il réponde ça ce matin.
Sébastien Lecornu dit clairement une chose aussi, c'est que compte tenu aujourd'hui des moyens technologiques qui sont déployés dans une guerre qu'on appelle de guerre de haute intensité, il faut une armée professionnelle. Quelqu'un qui aurait été formé, par exemple, il y a 15 ans, ne serait pas en mesure de combattre aujourd'hui dans une guerre de haute intensité.
En revanche,
il y a une guerre des esprits. Pardon, mais il y a une guerre des esprits aussi. Oui. Réunir des gens, essayer de saluer le même drapeau, aller dans la même direction.
C'est précisément ce qu'il dit. C'est un rôle social.
Il en appelle. Moi, j'en appelle à l'État. À l'État qu'on dise vraiment les choses, que l'éducation nationale redevienne ce lieu de diffusion des valeurs patriotiques, de notre identité. Donc, c'est vrai qu'on est en combat. Et c'est vrai que ce n'est pas seulement à l'armée de le faire. Dans l'armée, il faudrait qu'elle soit quand même renforcée dans ses effectifs également. Et la condition militaire, aujourd'hui, est un vrai problème.
Ouais. Mais il a raison, le ministre, quand il dit que c'est à l'école que de porter cela, parce que c'est dans le plus jeune âge que les convictions arrivent. Il suffit de relire Bernanos. L'enfant est une coque vide qui n'attend qu'une chose, c'est que des valeurs qui soient les bonnes lui soient transmises. Et donc c'est à l'enfance que l'on doit transmettre des convictions. Le problème, c'est que l'enfant aussi, on l'a voulu comme roi et comme doué de compétences intrinsèques et qu'il n'aurait plus rien à apprendre et il devrait apprendre de lui-même. Donc il faut changer notre logiciel.
Il n'y avait plus de danger. À quoi bon
Il y avait un danger.
On a considéré qu'il n'y a plus
je suis d'accord avec vous, on a nié tous les dangers. C'était le déni. Mais moi, je dirais qu'il n'y avait pas que le déni, il y avait aussi de la lâcheté, parce qu'on ne voulait pas dire les choses. Il n'y avait pas intérêt à dire les choses à tout niveau.
Ouais.
Bon, celui qui parle, le premier, ou celui qui dit la vérité, il doit être exécuté, disait Libère, non?
Oui, et Aubin, en 2004, saurait témoigner.
Bon, je voulais terminer par une toute petite séquence, mais qui est assez violente, qui a été tournée à Brest le week-end dernier. Deux soirs de suite, des combats à main nue. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Ah, ça s'est passé en marge du Ramadan, dans la communauté mahoraise. C'est inspiré d'une tradition, paraît-il, qui s'appelle le Mourigué. Plus de 200 personnes ont assisté à ces combats à main nue. Les policiers sont arrivés, ils ont été sur place, ils ont été pris à partie par une soixantaine d'individus. Et vous allez entendre pourquoi ils n'ont pas pu intervenir.
On n'a pas pu procéder aux interpellations parce qu'en fait, ils étaient beaucoup trop nombreux. Et ils sont arrivés sur nous une soixantaine. Comme je vous dis, ils étaient bien échauffés déjà de leur manifestation, de leur tradition là, qu'ils ont à se battre. Alors, pour nous, ce n'était pas possible. Si on voulait interpeller, on est obligé d'engager d'autres moyens. Maintenant, c'était un risque de faire des blessés plutôt qu'autre chose. On ne peut pas gérer ça une douzaine et à un moment donné, il va falloir faire cesser les infractions, quoi.
Voilà, donc on peut pas intervenir. On peut pas intervenir. Il y a des endroits où on ne peut pas intervenir en France. Alors, on a expliqué, ce policier explique pourquoi, et sans doute à juste titre, mais enfin, on peut quand même s'en étonner.
On s'en étonne, mais bon, quand on intervient dans une telle situation, la réalité s'impose, donc il faut faire preuve de réalisme. Maintenant, le fait qu'on puisse de moins en moins intervenir, ce qui s'est passé il y a deux semaines à Rennes, avec pendant plus de deux heures les usages des armes à feu, des armes automatiques, non, mais, et qu'on ne puisse pas intervenir.
On a attendu le raid.
Bon, en tout cas, Ça pose vraiment aujourd'hui des questions de fond sur l'état de notre société. Bon, mais c'est pas forcément le problème de l'intervention, c'est le problème en amont. Pourquoi cela se produit-il? C'est ça la vraie question. Et pourquoi cela va continuer et s'accroître?
Puis quand le policier ou le gendarme intervient, il prend des risques très importants aussi. Ils le savent, sur le plan pénal.
Et il n'y a pas eu d'interpellation, évidemment. Ils n'ont pas pu aller. Effectivement,
il fallait convertir au jeu celtique, c'est moins dangereux. Hein.
Ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est que ces questions, on se les pose depuis très longtemps, les questions liées à la sécurité. Souvenez-vous de la campagne présidentielle de 2002. Elle a été faite en très grande partie sur les questions liées à l'insécurité. On est en 2024, 22 ans plus tard.
Et l'insécurité
n'a fait qu'augmenter.
Et les déclarations du Premier ministre Jospin dans sa campagne présidentielle,
absolument,
très intéressante.
J'ai fait preuve de naïveté.
Ouais, exactement.
Mais en 22 ans, on fait le même constat depuis plus de des décennies.
Et on parle de réarmement. Si le ministre Cornu a raison de dire qu'il faut se réarmer, en attendant, qu'en est-il des territoires que nous perdons chaque jour? Parce qu'il faut être cohérent. Je veux bien qu'on... Mais il faut un réarmement moral, idéologique. Il ne faut plus rien accepter sur notre territoire. Et sans évoquer qu'un militaire français, je le disais encore à midi, ne peut pas se balader en tenue dans une partie du territoire français sans être agressé. Ça, c'est une réalité.
Bon, mais on va en rester là pour ce soir. On aurait pu parler du déficit. Abyssal, je pense.
Anecdote.
Julien, parce qu'on parlera dans Soir Info à 22h30. Maureen Vidal à 22h. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à Jade Roger et Adrien Fonteau d'avoir aidé à la préparer. Bye bye et à demain.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.